adhérer dès maintenant. France Culture, une radio du groupe Radio France.
France Inter,
la voix est libre.
Il est 15h04 d'ici quelques secondes sur France Inter. Tout de suite, c'est le répondeur de Daniel Mermet et c'est Là-bas si j'y suis.
Bonjour les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Souvent on dit, un peu rapidement, que nous vivons sous la loi du plus fort. Mais seulement si c'était vrai. Ça voudrait dire que dans chaque domaine, ce serait le plus fort, le plus doué, le plus talentueux qui dominerait. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne vivons pas sous la loi du plus fort, nous vivons sous la loi du moins scrupuleux. Lorsqu'un trader gagne des millions en spéculant sur le blé et en créant des émeutes de la faim, il n'a pas besoin d'être doué ou d'être talentueux ou d'être fort pour faire ça. C'est pas compliqué d'acheter pas cher, de stocker, d'attendre et de vendre très cher. Non, il a besoin que d'une seule chose, de n'avoir aucun scrupule. Le système sélectionne pas les plus forts d'entre nous, mais les moins scrupuleux. Au revoir, c'est Franck Danière.
Je surprends être nostalgique d'une France que je n'ai pas connue en rapport à mon jeune âge, celle des héros. Et finalement, je pense que je ne regretterai pas celle que je connais actuellement, celle effectivement des victimes. Merci Daniel, très belle émission.
Merci Daniel pour cette très belle émission. Bravo d'en avoir profité pour rappeler que l'extrême droite et l'extrême gauche, ça n'est pas la même chose. En ces temps où, que ce soit à l'UMP ou au PS, on parle des extrêmes, en confondant ainsi, en mettant dans le même sac le FN et le Front de Gauche. Donc ça c'est plutôt bien, puisque moi je considère que l'extrême gauche ça n'existe pas, mais de la gauche radicale. Tant que tu nous feras des émissions comme ça, on aura des raisons d'écouter la radio. Ciao, bisous.
Bonjour, MG de Strasbourg et alentour. Nous avons rendez-vous le samedi 1er mars à 15h au bar La Perestroïka de rue Tiergarten. C'est tout près de la gare. À samedi.
Bonjour, je suis Pasquale Lario, guitariste flamenco. Je suis ami de Paco de Lucia depuis 78. Je l'ai connu en France, j'ai suivi toute sa carrière, je suis allé pratiquement à tous ses récitals. C'était pour vous dire mon témoignage, comme quoi je suis très touché de sa disparition. C'est un musicien qui avait la faculté de rentrer dans une dimension, sortir d'une dimension, rentrer dans une autre, avec une élégance musicale qui lui était propre. C'est quelque chose d'irremplaçable, et voilà, je tenais à vous le dire. Et demain, Paco sera à Madrid, son corps va arriver à Madrid. Il y aura un hommage qui lui sera adressé au Théâtre Real de Madrid. C'est le théâtre qui a reçu pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne un guitariste flamenco. Merci Paco pour ce merveilleux cadeau que tu nous as laissé sur cette planète. On pense à toi.
Et voilà, tout est dit. Tout est dit. Victor Hugo disait « Je ne souhaite pas qu'on mette de la musique le long de mes vers ». Ben on va inverser ça aujourd'hui pour cet hommage à Paco de Lucia. On va pas mettre de poésie le long de sa musique. Une heure de musique aujourd'hui en hommage à ce guitariste flamenco. Quelques rencontres quand même, comme celle-là, comme ce musicien qui vient de parler. Il y a quelque chose qui fait que ça ne trompe pas la sincérité. Elle est celle d'un musicien, ça parle effectivement avec le cœur devant cet immense artiste que fut donc Paco de Lucia. Donc aujourd'hui, dans la basse, j'y suis, un hommage à Paco de Lucia qui disait « Le flamenco, c'est une façon de vivre et un langage, quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne et qui est en moi ». Un mélange de cultures arabes, juives et gitanes, mûrie dans les rues d'Andalousie. Très vite, j'ai su que cette musique de pauvres était méprisée par les nantis. Évidemment, de quoi nous plaire à tous jusqu'à 16h ou presque. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG Angevins. On se retrouve le mardi 4 mars pour un nouveau Café Repère, consacré cette fois-ci à ce rendez-vous sacralisé de la vie politique, les élections. Passons au grill cette fichue démocratie représentative, voyons voir ensemble s'il n'est pas possible d'en imaginer une autre, moins politicienne, plus directe, avec une réelle implication de tous. Plusieurs représentants des listes en lice pour les municipales seront présents pour en débattre avec nous, dont la liste Angers Vivre Mieux Naturellement, qui a opté et pratiqué le tirage au sort de ses représentants. Alors, à mardi 4 mars, 19h, toujours au bar Le Challenge, 12 place Mendès France. Ciao.
Ouais, salut à tous, c'est pour vous indiquer que demain soir, vendredi à 19h, à Tourette, chez Pascal, aux latitudes, il y a le repère. On y parlera bien entendu des élections municipales sur le canton de Fayence, parce que dans les 9 villages, ça bouge, il y a des listes qui se présentent un petit peu partout. Donc tous ceux qui sont intéressés, qui sont sur des listes ou pas, et qui veulent parler de ce qui se passe au niveau électoral dans le coin, ben on en parle au repère demain à 19h. Pour ce qui concerne les invités de cette semaine sur France Inter, entre Copé, Hirsch, Raffarin et là un ministre socialiste, donc vraiment, on a un panel très représentatif de ce que pensent les Français. Allez, ciao vive, apportez-vous bien, vendredi 19h.
Bonjour, ce vendredi 28 février à 20h au Copain d'abord, 5 rue Saint-Didier à Nevers, se tiendra un café repère spécial à propos des élections municipales. Vendredi 28 février, c'est le café repère de la Nièvre. À bientôt.
Bonjour Daniel, j'ai écouté l'émission de mardi dernier. Merci de lever le voile sur ces négociations totalement opaques, celles des traités ACTA puis TAFTA. C'est plutôt rare dans les médias. Pour avoir lutté sur un site internet au débit, pour plus de transparence au sujet d'ACTA, une jeune Nancéienne, Émilie Collin, est poursuivie en justice pour diffamation et sera jugée début mars. Rejoignez-nous au comité de soutien et signez la pétition en allant sur le site www.libertédopinion, en un seul mot, .fr. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, Paco de Lucia, un hommage.
Flight number 2, arriving from New York.
Paco de Lucia, où puisez-vous votre inspiration?
Des souvenirs.
29 janvier 1971.
D'enfants.
ORTF.
Un mauvais village d'Andalousie.
Est-ce que vous écrivez votre musique?
Non. Mi cabeza, las manos, el corazón.
Tout dans la tête, les mains et le cœur.
Ben voilà, tout est dit, l'émission est terminée. Il a tout dit, tout dans la tête, dans les mains et dans le cœur. Il a quelque chose d'étonnant quand on le regarde, Paco de Lucia. Il a une certaine méfiance. Certaines défiances par rapport, on sent bien, aux journalistes, aux curieux, à ceux qui veulent faire parler les musiciens. Ils ont besoin, on fait de la radio, on ne peut pas passer que de la musique. Il faut bien qu'on ait des histoires, des commentaires, des anecdotes. On voit que ça, ce sera le mauvais client. On sent que c'est le mauvais client. C'est le gars qui a pas grand-chose à dire, à part tout dans la tête, dans les mains, dans le cœur, et encore, c'est pour faire plaisir. Parce que tout ce qu'il a à dire, c'est dans sa musique, c'est dans cet art incroyable qu'il a développé, cette virtuosité, ce boulot, ces années de travail, d'intuition, de silence, d'un rapport sans doute... J'allais dire qui passe pas directement par la raison. Picasso disait « Je cherche un chemin qui irait directement de l'œil à la main ». Oui, et je pense que Paco de Lucia, même si les comparaisons doivent s'arrêter un moment, pas faire d'amalgame avec certains grands de notre planète, de notre mémoire, mais il cherchait ça dans son travail, dans sa vie, dans son art, dans... Et ça, c'est les autres musiciens qui sont autour, les chanteurs, les danseuses, tout ce monde-là. Il y a une façon de se taire, de le regarder, de se comporter vis-à-vis de lui, qui fait que c'est peu à peu, c'est là que son art va se développer, va s'implanter, va s'imposer. S'imposer non pas comme un pouvoir, mais comme une voie. Il y a quelque chose là qui est trouvé. Il y a un filon. Il y a un filon qui va vers où quelqu'un disait de l'or semble couler de son jeu. C'est Carlos Santana qui disait ça. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de particulier qui échappe encore une fois à la raison, à nos façons habituelles d'essayer de comprendre le monde et ben, dans l'espoir de le changer, dans l'espoir de l'améliorer. C'est une autre façon d'améliorer le monde. Indéniablement, le monde est plus vaste depuis que Paco de Lucia y a séjourné.
Bon, José, on va pas boire un petit peu de manzanilla, hein, parce que ici ça se trouve pas, ou difficilement, hein, mais on va trinquer quand même.
On trinque quand même à Paco.
À Paco, hein.
Qui ouais, passe des scans, c'est comme on dit en Espagne, qu'il repose en paix. Ça nous a tous surpris, que ça tombe comme ça d'un coup. Et puis, ce qui est surprenant, mais qui ne l'est pas non plus, et qui est formidable, c'est que, à peine c'est arrivé, le monde entier a été informé et le monde entier a réagi. C'est bien en accord avec l'universalité que Paco de Lucia a apporté à la musique flamenca. Je me souviens quand il a commencé, quand il est apparu, c'était déjà une grande surprise à Madrid. Moi, j'étais à Madrid à cette époque parce que ça a été d'un seul coup, tout le monde est resté sur le cul de voir ce jeune guitariste déjà faire des choses qu'on n'avait jamais écoutées, qu'on ne passait pas à écouter un jour. Il y a eu aussi au début, même en Espagne, à Madrid, je me souviens, un peu de contestation. Touchait au flamenco.
Il y avait transgression, déjà.
Voilà,
ouais.
Voilà. Et justement, c'est ce que Paco a fait, comme il disait, avec les rompers, il faut rompre. Il faut rompre, et il a rompu, mais, comme il le précisait bien aussi, lui, j'ai toujours et je serai toujours un guitariste flamenco. Quand on a voulu faire des rapports avec le jazz, disons, je serai toujours un guitariste flamenco.
Alors toi, tu l'as rencontré, tu l'as connu à cette époque-là ?
Oui, à Madrid, je crois que c'est la fin des années 60. Et puis après, je l'ai beaucoup revu à Paris, en Espagne. On était devenus amis. Il m'avait baptisé Caraviuda, tête de veuve. C'était un vrai blagueur, hein. Il aimait beaucoup, c'est un polisson et blagueur. Quand il a joué avec Larry Coryell et John McLaughlin, sous un grand chapiteau qui était, je crois me souvenir, installé à la Villette, justement. Tout le public n'était pas là pour lui. Ils étaient là pour les courriels et pour John McLaughlin. Et nous-mêmes, les aficionados et les amis au flamenco, on avait un peu crainte que quand il a commencé à jouer, parce que là, il jouait encore un flamenco très traditionnel. Je me rappellerai toujours, il a joué son solo favori avec lequel il commençait tous ses concerts, Recuerdo a Patiño. C'était une alegría. Et je dis, qu'est-ce que tout ce public qui est là pour... Comment vont-ils réagir sur... une guitare flamenca en solo et flamenco. Toute la jeunesse, parce que c'est un public très jeune, est resté scotché quand il a joué son solo. Je me rappelle, il avait un peu toujours de la crème Nivea sur le talon de sa guitare. Il s'est mis un peu de crème Nivea et il a commencé. Alors là, il jouait encore flamenco parce qu'il disait, quoi que je fasse avec d'autres musiciens, je joue toujours flamenco. Et là, il a commencé, il y a Larry Coryell et John McLaughlin qui lui faisaient la pompe. C'était leur tour. Et d'un seul coup, il y a Larry Coryell qui le regarde comme ça, il se tourne vers lui, il pose sa guitare par terre, il fait un bond sur scène, devant tout son public, il fait un bond, il saute comme ça en l'air, il retombe à genoux, il embrasse Paco sur la bouche. Et ça a été un moment, mais c'était... Et pour nous, de voir que la guitare flamenca avait un tel succès, on ne croyait pas que le flamenco, à cette époque-là, allait devenir ce qu'il est devenu. C'était forcément, je leur ai dit, je crois que ce soir, j'ai assisté à la descente de la Sainte Trinité, quand on est rentré en bagnole.
Mes frères, Pepe et Paco, se présentèrent à un concours de flamenco à Jerez.
France Culture.
Et Pepe remporta le concours. Il avait 14 ans.
29 décembre 2003.
Et il a gagné le premier prix de chant. Paco, lui, ne pouvait pas concourir, il n'avait pas l'âge. Mais c'est lui qui accompagnait Pepe à la guitare. Le public du théâtre de Villa Marta Jerez se leva en exigeant le premier prix de guitare pour Paco. Et la municipalité a dû inventer un prix spécial pour donner à Paco pour satisfaire le public. Pepe a gagné 35 000 pesetas et Paco 10 000. Il avait 12 ans. Et avec cet argent, notre père partit à Madrid avec les deux garçons. Et c'est là qu'ils enregistrèrent le premier disque de Chiquitos d'Algeciras.
Et il venait d'où alors, Paco de Lucía?
Algeciras, son père. C'est son père qui lui a donné... les premiers cours de guitare. Et lui, dans la famille, n'était pas destiné à être le guitariste. Et quand ils ont vu Paco, qui a pris la guitare et tout ce qu'il faisait sans jamais avoir joué, ils sont restés, ils ont dit, mais c'est incroyable. C'était un don du ciel, ça lui est descendu dessus, absolument incroyable. Après, il a eu des maîtres pour apprendre quelques techniques, quoiqu'il en avait déjà pas besoin, puis c'est la technique naturelle d'un virtuose. Il y avait Ricardo Modrego, un guitariste d'école, on pourrait dire. Et quand il a commencé, Paco de Lucía, la guitare en Espagne était à un niveau très bas. Si l'on peut dire très bas, parce qu'il y avait quand même Sabicas, donc qui était une référence pour Paco de Lucía. Il avait même sa photo dans son portefeuille. Et il a été veillé, lorsque Sabicas est décédé, il a été veillé auprès de sa dépouille aux États-Unis. Il avait une adoration pour Sabicas, c'était pour lui un maître. Mais la guitare était d'un niveau incomparable avec ce qu'elle est maintenant. C'est lui qui a, d'un seul coup, qui a explosé, qui a universalisé la guitare flamenca. Et malgré tout ce qu'il fait, ça reste flamenco de chez flamenco. On ne peut pas dire le contraire.
Et non gitan, c'est ça? C'est un
paio. Non gitan, paio, oui. C'est d'ailleurs, par contre, les gitans, pour une fois, ils sont tous unanimes quand il s'agit de Paco de Lucía.
Il fait partie de la famille, quoi.
Ils acceptent que oui, qu'il joue la guitare mieux que tout le monde, même mieux que les gitans. Chose qui n'est pas facile à digérer, mais c'est largement accepté.
A mí el flamenco que me gusta.
Le flamenco que j'aime, c'est celui qui vit en Andalousie. Il y a beaucoup de gens qui jouent du flamenco dans le monde. Mais en Andalousie, il y a cette étincelle, ce génie.
1er septembre 1978, France Culture.
Que j'ai du mal à expliquer. Je le sens en moi. Mais je ne sais pas l'expliquer.
Difficilissimo, non? Il flamenco è.
Le flamenco, c'est un peu plus qu'une musique. C'est une philosophie, une manière de penser. Je ne sais pas si nous sommes vraiment des musiciens. Et peu importe l'évolution. Ce qui importe, ce sont les traditions. L'enfance de chacun de nous. Des gitans en particulier. Leur culture est tellement différente de la nôtre, de la culture occidentale.
Et, mais avec Camarón de la Isla, ils avaient une vraie amitié de...
Ah oui, c'était un couple. C'est un couple.
Parce qu'ils ont passé plus de 10 ans ensemble.
Oui, c'était un couple, une amitié profonde, plus qu'une amitié. Plus qu'une amitié. Et Paco était désespéré quand, Camarón a fini par, par mal tourner. Enfin, mal tourner, on ne peut pas dire ça comme ça, je ne sais pas quoi, comment le dire. Par se perdre dans le basuco et dans la cam. Et Paco a voulu absolument faire ses derniers albums qui s'appelaient Le Potro, il me semble. Et il savait qu'il voulait absolument faire ce CD. Alors ça faisait longtemps qu'il ne jouait plus avec Camarón, parce qu'il savait que ça allait être le dernier. Et ça a été l'enfer, parce que Camarón était dans sa loge, au studio. Et on l'attendait pour venir faire ses voix, ses chants. Il descendait des fois 2 heures après, complètement jeté. Et Paco a eu la patience d'attendre, pour enfin pouvoir sortir au moins ce dernier. Il savait que c'était la dernière fois qu'il faisait quelque chose ensemble.
¡Qué mala suerte!
il a amené des nouveaux, une nouvelle instrumentation, hein, le cajon péruvien, c'est ça?
Oui, bonne idée, bonne idée. Si je dis une connerie, ben, il y en aura qui pourront me reprendre. Paco de Lucía a apporté le cajon dans la música flamenca. Pourquoi? Parce qu'il a engagé Rubén Dante. Parce que c'est lui qui a apporté le cajon à la musique de Paco de Lucía. Le cajon n'était pas un instrument joué dans le flamenco avant. Ça n'existait pas. Il y a percussion, il y avait que les palmas et los zapateos, le pied des danseurs. C'est tout ce qu'il y avait. Et à partir de Paco de Lucía, le cajon est rentré presque inévitable et incontournable dans la musique flamenca, dans le flamenco. C'est devenu un instrument flamenco. Il a été porté et popularisé dans le monde entier aussi, parce que la base, c'est péruvien, hein. Il me semble que je ne dis pas de bêtises. Et il a été, grâce aussi au flamenco et grâce au sextet. Parce qu'à l'époque, c'était le sextet de Paco de Lucía. Encore une aventure merveilleuse, le sextet. Qu'est-ce que ça nous a fait rêver? C'était magique.
C'était quoi? C'était
non, flamenco.
Ah, puro flamenco.
Mais oui, il y avait Carlos Benavente à la basse, il y avait Jorge Pardo au sax et à la flûte, mais c'était flamenco. Quand il a fait son CD Almolaïma, il y a un moment où la guitare sonne vraiment bizarrement, et tous les guitaristes, on était tous à essayer de copier ce qu'il faisait. Il y avait un moyen, il y en a qui ont mis du papier entre les cordes, il y en a qui ont fait tout un tas de trucs pour essayer de retrouver ce son, et après on a appris qu'en réalité il jouait du laoud, du laoud arabe l'enregistrement de la Molaïma. Alors que tout le monde mettait des bouts de papier entre les cordes et tout pour essayer de retrouver le son qu'on écoutait sur le disque, c'était trop rigolo. We'll be right back.
C'est une magie.
Que de pronto aparece.
Le duende, il apparaît.
Y no sabes por qué ha aparecido.
Personne ne sait pourquoi.
Y cuando lo tienes y lo sientes, es una sensación.
Et quand il te touche,
que no hay droga que se le parezca.
Il est plus fort qu'aucune drogue.
Es como estar en posesión de.
Plus fort que tú.
De la verdad, de saberlo todo. La sensación de que eres Dios.
On est là, sur scène, en train de jouer. Et tout à coup, le duende. La plus belle chose au monde. On a l'impression d'être Dieu.
Casapé Peru Mouftar, restaurant espagnol. Voilà, il y a des photos. Et il y a plein de photos partout. Il y a Diego El Cigala. Il y a Dukende qui est là. Camarón aussi, bien entendu. Alors, il y a une vingtaine, une trentaine de tables. Et tout autour, sur les murs, il y a des photos, des tableaux avec des photos. Donc, tous les musiciens qui sont venus ici rendre visite à Tony. Et il y a des photos de Paco de Lucía partout. Et il y a deux guitaristes qui sont là et qui jouent. Et il y a aussi des écharpes du Real Madrid. Ici, il y a beaucoup d'aficionados qui viennent manger ici.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout le monde, il est connu. Beaucoup d'aficionados, muchos. Et surtout, quand il y a un festival flamenco à Paris, bah, les artistes, ils viennent. Les artistes, tous les artistes, tout va bien. Il y a Vicente Amigo, il y a tous. Tous, Sara Varas, Moraito, qui est también parti, Cristina Hoyos, Enrique, quand il était vivant, pour desgracia, il est mort aussi. Tomatito,
Enrique Morente.
Enrique Morente, oui, il est mort. Paco, il a toujours été correct, c'était un monsieur. Il était meilleur comme personne que comme artiste, c'est beaucoup te dire. C'est beaucoup te dire. T'es meilleur comme artiste que comme personne que comme guitariste. Chuli, Chuli, tócame entre dos aguas, anda, por favor. Yo sé que es duro, yo sé que es duro. Pero toca entre dos aguas aquí para.
A tocar entre dos aguas.
Yo sé. En honor a Paco, ¿eh?
La plus jouée, la plus écoutée dans le monde est celle de Paco de Lucía. Dans le monde, celle de Paco de Lucía. Quelques jours après sa mort, il y a deux jours, ça a été une explosion. Partout, on joue et on écoute. Alors, on écoute cette musique, mais on la joue aussi. Et là, tout simplement, au milieu de Paris, place de la Contrescarpe, chez Tony, dans ce bistrot, qui a l'air un peu un truc de touriste, comme ça. Eh bien non, c'est là que ça se niche. C'est là que ça se niche bel et bien, et qu'on retrouve ce côté absolument populaire et incroyablement savant aussi. En même temps, on adore ce mélange du savant et du populaire, de l'habileté, du travail incroyable qui est derrière ça. Et puis aussi le duende, et puis le génie qui arrive, et puis cette magie tout d'un coup qui se produit et qu'on attend, qu'on guette, qui n'arrive pas toujours, mais qu'on essaye d'apprivoiser tout le temps et par lequel on espère, à un moment ou à un autre, se faire surprendre. Oui, il y a quelque chose de de magique, il y a quelque chose de l'ordre du vaudou dans tout ça. Mais bien sûr, oui, le vaudou de la Nouvelle-Orléans, et qui a rejoint aussi ce jazz, qui a rejoint le flamenco. C'est une des idées de Paco de Lucía, et c'est aussi une idée de l'époque, de confronter les musiques, mêler les musiques les unes aux autres, sans pour autant tout homogénéiser, mais c'est des dialogues, c'est des rencontres pour le meilleur.
Ha dejado de su música, su estilo, ha dejado miles y miles de seguidores. Oh, il est connu maintenant, il est connu au Japon, en Chine, il est connu au Esquiva, il fait ses salles pleines. Maintenant c'est un mythe. Il était déjà un mythe vivant, maintenant qu'il est mort. Ouais. Moi, le reste, je m'en fous, c'était mon ami. C'était mi hermano.
Et il va être enterré au Mexique ou en Espagne?
Non. Il me l'a toujours dit qu'il voulait. Et mi cuerpo quiero que descanse en Algeciras, en mi tierra.
Donc il va y avoir des funérailles énormes à Algeciras, à Algeciras. Ouais.
Ça va être comme si c'était. C'est énorme. Ah, oui.
Thank you.
Voilà, Paco de Lucía avec John McLaughlin et Aldi Meola, Mediterranean Sundance. Vous aviez reconnu ce magnifique morceau. C'était un hommage à Paco de Lucía, reportage d'Antoine Chao. Merci à José Renato de ViaVox Production et à Tony de la Casa Pepe, rue Mouffetard, près de la Contrescarpe, à Paris tout simplement. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Élodie Royer et Michel Thomas. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01. 56, 40, 37, 37, on va passer toute la fin de la semaine à écouter, réécouter Paco de Lucía. On se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. On n'est pas là, vendredi. On sera là lundi à 15h. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon. Salut.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Alors, quelle est votre question ?
À quand l'harmonisation fiscale ? Ben, en fait, je réfléchis à la question, là. Je ne suis pas encore sûr. Hein. Mais à quand l'harmonisation fiscale et moins de bureaucratie quand on voyage entre les pays européens ? Vous habitez ailleurs qu'en France, vous ?
Non, mais j'ai un petit peu voyagé, mais non, j'ai jamais. Pourquoi vous habitez où ?
Ben, j'ai habité en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne. Ouais. Et puis à chaque fois qu'on arrive dans un pays, la bureaucratie, c'est incroyable, quoi. Tout est différent. Ouais. Alors qu'au final, on n'est pas si différent que ça, quoi. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait autant de difficultés pour s'installer dans un pays juste à côté.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme grande différence, par exemple ?
Par exemple, j'habitais 6 ans en Allemagne, je cotise pour la caisse de retraite. Quand je reviens ici, comment ça se passe ? Voilà, donc toutes des questions comme ça, c'est pas harmonisé, on n'a pas le même calcul de points, ainsi de suite. Ouais. Alors, donc faire la libre circulation des gens, c'est bien, mais après, il faut réfléchir à ce qu'il y a derrière. Donc voilà, donc je pense que l'Europe, c'est une bonne idée, mais ça va pas assez loin, pas assez vite. Et c'est pour ça que les gens, vu que ça stagne, deviennent de plus en plus eurosceptiques, ils voient pas de choses concrètes se passer pour eux.
Pourtant, il y en a qui trouvent que ça va trop vite et qu'au contraire, l'Europe impose de plus en plus de choses et qu'on perd notre liberté.
Bah, ils imposent beaucoup de normes, ouais, mais des choses concrètes pour les gens, pas beaucoup.
Et vous travaillez dans quoi ?
Le conseil, en organisation, en entreprise.
Ouais, vu que vous avez fait différents pays, le pays que vous préférez pour vous installer ?
L'Allemagne. Ouais. Ouais. Là, je suis revenu en France pour ma femme, qui est irlandaise d'ailleurs. Parce qu'elle aimait bien Paris, c'est vrai que Paris c'est une belle ville, mais l'Allemagne il y a une qualité de vie qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Hein, parce que, ouais, il y a beaucoup de places en crèche, beaucoup de parcs, beaucoup de choses pour... c'est agréable. Puis ce sont des villes à plus à taille humaine, que c'est pas un État fédéral, donc c'est beaucoup moins centralisé. On peut faire beaucoup de choses partout.
Ouais. Et votre prénom ?
Charles.
Bon ben, je vous laisse poser votre question, Charles.
Oui, je vais réfléchir à ma question parce que je l'ai mal formulée.
Bienvenue au Puce de Saint-Ouen où il y a un stand Europe, tu m'entends, et où les citoyens peuvent écrire leurs questions sur une ardoise et après cette ardoise sera photographiée et présenté à Michel Barnier qui répondra aux questions. Vous voulez poser une question pour l'Europe, madame ?
Quel genre d'Europe ?
Celle dans laquelle vous vivez ?
Bah, mon Dieu, on est bien obligé d'y vivre. Hein. On va pas aller en Arabie Saoudite, quand même.
Est-ce que vous auriez une question, une remarque, un cri du cœur, positif ou négatif, à envoyer à la Commission européenne et à l'Union européenne d'une manière générale?
Moi, j'aimerais que l'Europe nous laisse, chaque pays fasse ce qu'ils veulent, qu'on ait nos spécialités et qu'ils viennent pas mettre leur nez là-dedans. C'est tout. Hein, c'est-à-dire que pour les fromages, par exemple, qu'ils nous donnent pas des règles à suivre ou pour qu'on fasse ce qu'on veut chez nous.
Est-ce que vous voulez bien nous l'écrire?
Non.
Pour qu'on l'envoie?
Bon, je veux bien, mais bon.
Mais on peut utiliser tous les registres.
Hein, ah, si vous voulez. Bah, ah, vous aussi.
Voilà. Vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis commerçante.
Vous vendez du fromage ?
Non. Non, je ne vends pas de fromage.
Et vous vendez quoi ? Vous pouvez le dire ou pas ?
La lingerie.
Et alors, est-ce que l'Europe vous embête par rapport à la lingerie ?
Mais non, c'est pas ça.
Elle pourrait. Elle pourrait vous dire il ne faut pas utiliser telle matière, il ne faut pas faire ci ou pas faire ça. Je ne sais pas, je vous pose la question.
Bah, c'est déjà fait. Hein. Ouais. Mais ça, c'est les fabricants. Moi, je suis détaillante, c'est pas pareil.
Madame, alors là, vous avez une liberté de parole totale.
Dites-moi ce qu'il faut que je mette.
Mais c'est vous qui me dites, c'est moi qui...
Je ne sais pas comment l'exprimer.
Vous êtes la tête, je suis la main.
Je ne sais pas comment l'exprimer.
Mais si vous avez dit une union moins uniforme et moins technocratique, moins technique.
Voilà. Et une banque générale qui nous aide à remonter l'Europe. Que l'Europe. Et pas l'Amérique.
Pas l'Amérique ?
Ben non. Parce que dans le fond, c'est l'Amérique qui nous gouverne l'air de rien.
Ah, vous croyez ?
Moi, je suis sûr.
Et vous allez voter pour les élections européennes ?
Ben bien sûr. Ça dépendra de ce qu'on propose. Enfin, de toute façon, on ne voulait pas rentrer dans l'Europe, on nous a forcés à y rentrer, et on nous impose des tas de trucs. Ça va.
Et vous êtes plutôt de droite ou plutôt de gauche ?
Oh, je ne serais pas de gauche, non.
Non.
Du tout.
Il faut dire aux gens d'aller voter, c'est important.
Bien sûr, oui. Il y a des campagnes pour ça, sur les radios. Allez voter, allez voter.
Non, pour les européennes, assez peu.
Vous croyez qu'il y en aura pas ? Bah, pas tout de suite.
Il y en a une, mais tenue trop petite. Vous, je pense que vous serez peut-être plus entendu que notre petite campagne.
Hein ? C'est trop d'honneur que vous le faites. Mais là, quand vous êtes au Puce de Saint-Ouen, vous touchez, à mon avis, un public très, très bobo, non ? Là, qui viennent regarder les beaux meubles anciens.
Oui, bien sûr. C'est certain. Mais on va aussi dans des endroits un petit peu... On va organiser des débats dans des banlieues périphériques où les gens n'ont pas l'impression d'être écoutés. Ouais. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais c'est l'ambition qu'on doit se donner.
Mais vous faites quoi, vous ?
Moi, je m'occupe de la communication du Parlement européen en France. Et moi, je travaille pour une institution démocratique, la plus belle du monde. 500 millions de citoyens européens. La première zone économique mondiale, oui, l'Europe. Je pense, même si on n'arrive pas à trouver toutes les solutions maintenant, on a vraiment la chance d'avoir cette institution-là et qu'il faut aller voter. Parce que c'est par le choix des Européens qu'on arrivera à s'en tirer.
Et votre prénom ?
Mathieu.
Donc si le citoyen veut aller poser des questions à Michel Barnier et au ministre des Affaires européennes...
C'est là qu'il le fait, maintenant.
Donc c'est maintenant, c'est tout à l'heure de 18h à 21h au Doc de Paris, à la Plaine Saint-Denis.
À ton de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet. France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle, du 10 au 14 juillet.
Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne.
Grand temps de folie, 5 jours de live et plus de 100 concerts avec Stromae, Fauve, Chaka Ponk, Julien Doré, Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert, Détroit, Les Innocents.
Quand les doutes arrivent.
Retrouvez-les dans les programmes de France Inter. Renseignements 05 46 50 55 77 sur francopholie.fr et sur franceinter.fr. Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Le flash Maxime Deps.
L'Élysée l'a annoncé cet après-midi. François Hollande se rendra demain en Centrafrique. Le chef de l'État y fera une visite éclair pour s'adresser aux troupes françaises postées à Bangui. Il ira également à la rencontre sur place de Catherine Samba-Panza, la présidente par intérim du pays. Une visite non prévue à l'agenda qui intervient deux jours après le vote des députés français qui ont donné leur feu vert à une prolongation de l'opération Sangaris en Centrafrique. En Ukraine, le pro-européen Arseniy Yatsenyuk est le nouvel homme fort du gouvernement. Il a été nommé cet après-midi Premier ministre par le Parlement dans un climat pour le moins tendu. Le président déchu, Viktor Yanukovych, s'est en effet exprimé aujourd'hui pour la première fois depuis sa fuite de Kiev. Il estime toujours être le président de l'Ukraine. Dans une déclaration aux agences officielles russes, Viktor Yanukovych dénonce l'arbitraire qui règne dans son pays. Ils sont plusieurs milliers en marche cet après-midi à Paris vers le MEDEF, tous intermittents, tous en colère contre le patronat qui veut supprimer leur régime spécial d'assurance chômage, trop coûteux, trop avantageux d'après le MEDEF. Ça sent le gataz, ça va péter. Peut-être peut-on notamment lire sur les banderoles. Plusieurs rassemblements sont également prévus aujourd'hui un peu partout en région. La maire socialiste de Lille, Martine Aubry, appelle quant à elle cet après-midi à ne pas sacrifier la culture. Le CSA a tranché, c'est finalement Mathieu Gallet qui sera le nouveau président de Radio France. À 37 ans, il a été préféré cet après-midi au sein 5 autres candidats, parmi lesquels figurait l'actuel président Jean-Luc Hesse, jusqu'ici patron de l'INA. Mathieu Gallet est également passé ces dernières années par le ministère de la Culture à l'époque de Frédéric Mitterrand ou encore de Christine Albanel. Un ignoble coup monté et rien d'autre, c'est en ces termes que Jean-François Copé commente l'article qui le met en cause aujourd'hui dans les colonnes du magazine Le Point. Le président de l'UMP va porter plainte. L'hebdomadaire affirme que Jean-François Copé a favorisé une agence de communication fondée par deux de ses proches pour les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012. Agence qui n'aurait pas hésité à gonfler la note plus que de raison. Ziad Takieddine, lui, est libre. L'homme d'affaires franco-libanais va pouvoir sortir de prison. La cour d'appel de Paris l'a ordonné cet après-midi. Ziad Takieddine, mis en examen dans l'affaire Karachi, avait été placé sous les verrous en décembre, et ce pour avoir violé les conditions de son contrôle judiciaire. Deux petits nouveaux, enfin, dans la sélection des Bleus qui affronteront les Pays-Bas la semaine prochaine en match amical au Stade de France en football. Cet après-midi, le sélectionneur Didier Deschamps a décidé de convoquer pour la première fois l'attaquant Antoine Griezmann et le défenseur parisien Lucas Digne. À noter dans cette sélection les absences d'Eric Abidal et de Samir Nasri, des absences que Didier Deschamps n'a pas voulu commenter.
Vendredi 28 février, France Inter investit le Trabendo dans le parc de la Villette.
Je t'ai fait de l'amour.
Retrouvez en session privée
Camille Bazbaz.
À manger avec les doigts.
Rocky.
La femme.
Et le prince Miaou.
France Inter vous invite au Trabendo Intercession.
Un rendez-vous pour découvrir sur scène les artistes de demain, diffusés dès aujourd'hui sur France Inter.
Avec Le Parisien et Aujourd'hui en France, à retrouver aussi bientôt sur l'antenne de France Inter.
Toutes les infos, les réservations
sur franceinter.fr. L'heure des rêveurs.
L'heure des rêveurs, c'est le vendredi soir à 20h.
Zoé Varier.
Deuxième épisode de notre série sur Gilgamesh.
Bah, c'est une partie de nous, Gilgamesh.
Le grand homme qui ne voulait pas mourir, avec Jacques Cassabois.
Oui, c'est une rencontre magistrale, majeure. Je l'ai compris à ma façon. C'était ma manière de l'aimer et de lui dire « Mais quel formidable bonhomme tu as été !» Et merci de nous servir de guide encore aujourd'hui.
Il faut que... Il y a l'heure des rêveurs. Il faut qu'il y ait l'heure du calme.
L'heure des rêveurs, à suivre ce vendredi sur France Inter, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
16h05, d'ici quelques secondes sur France Inter, l'heure de passer les rênes à Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Maxime Debs, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous. Hier, j'ai évoqué un chef d'orchestre flamboyant, Léopold Stokowski, celui qui avait dirigé la bande-son de Fantasia en 1940 pour Walt Disney. En voici un beaucoup plus modeste qui a fait son chemin tranquillement. Il aura 85 ans le 4 mars prochain. C'est Bernard Haitink, néerlandais, et qui s'est laissé aller à la musique, comme il l'a dit, à l'âge de 11 ans. Au début, ça n'était pas gagné. Il était un instrumentiste assez moyen et finalement, c'est la direction d'orchestre qui lui a montré son véritable chemin comme violoniste. Bah, comme il dit lui-même, il y en avait d'autres, il y en avait plein d'autres même, mais comme chef, eh bien, sur la durée, il a montré qu'il avait des capacités de construction, d'humanité, il s'est bonifié avec l'âge, et un coffret lui a été consacré chez Decca. Voici, dirigé par Bernard Haitink, le menuetto de la première symphonie de Beethoven. C'est écrit menuet, mais en fait ça va plus vite, donc c'est déjà un des premiers scherzo de l'histoire de la musique. Le menuet était plus large, plus calme, et le scherzo, bah, il commence à s'exciter.